Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. C'est l'ouverture aujourd'hui de la semaine pour l'école publique. Alors, vous aurez l'occasion d'intervenir au cours de la prochaine heure sur le genre d'école que vous souhaitez au Québec. Surtout, je vais vous demander quelle devrait être la priorité du prochain ministre de l'Éducation. Évidemment, on ignore encore qui occupera ce poste important avec celui du ministre de la, du ministère de la Santé, des Finances, du Conseil du Trésor. Il y a quand même beaucoup de postes importants, là. On a hâte de connaître la composition du prochain Conseil des ministres de ce nouveau gouvernement caquiste à Québec. Nous allons parler de ça. En deuxième heure, je vous le dis tout de suite, on va revenir sur la question du nouvel ALENA, appelons-le comme ça, l'AEUMC, on va finir par s'habituer, où finalement on apprend depuis plusieurs jours, alors que le gouvernement fédéral s'est quand même vanté d'avoir échappé au pire, on s'est rendu compte que pour les producteurs de lait, pour ceux aussi qui fabriquent de l'aluminium au Québec, c'est pas évident non plus, mais aujourd'hui on va s'intéresser en particulier aux producteurs de lait. Puis je vais vous poser la question parce qu'on réfléchissait à cette question-là. Dans le fond, on ne sait pas d'où vient le lait qu'on boit. Le savez-vous, vous? Je me dis peut-être que ça serait intéressant de savoir si notre lait vient des États-Unis ou si c'est du lait québécois. Moi, personnellement, si c'était marqué sur la pinte de lait, j'aurais une préférence pour du lait québécois, du lait canadien. Vous me direz, vous, là, si c'est le genre de choses aussi qui vous parlerait. Je paierais même, genre, tu sais, 5 cents de plus, peut-être, là. Je dis pas qu'il faut augmenter le prix du lait, là. Déjà qu'on dit qu'il est assez cher comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour vous, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée à acheter du lait québécois? Et là, plus largement, ben, on ouvre la discussion sur êtes-vous d'accord pour payer un peu plus cher pour des produits qui sont faits ici par nos producteurs, par nos agriculteurs? On parlera ça en deuxième heure d'émission et je reçois Safia Nolin, auteur, compositeur, compositrice, interprète tout à l'heure, vers 11h30. L'école publique malmenée, des fois, critiquée à tort ou à raison. Beaucoup vont dire, ben on a des raisons de la critiquer au fil des ans. Beaucoup de Québécois ont décidé d'envoyer leurs enfants à l'école privée parce qu'ils se sont dit, l'école publique fait plus la job. D'un autre côté, les enseignants disent, arrêtez de nous enlever nos outils, nos moyens. On n'est plus capable. On sait que les jeunes enseignants quittent au bout de 5 ans, écœurés par une profession où finalement ils se sentent pas du tout épaulés. Et puis il y a l'école qu'on souhaite, on regarde l'école d'ailleurs, on se dit mon Dieu, comment ça se fait que dans certains pays ça roule, ils ont des belles classes, les enfants font plein d'activités sportives, alors qu'ici on a l'impression que nos jeunes n'ont qu'une envie, c'est de décrocher. On va parler de tout ça évidemment, ce sont tous des enjeux importants, prioritaires, mais il y a une liste de priorités. On verra qui sera le prochain ministre. Pour l'instant, je vous présente mes invités pour discuter de ce grand sujet. Julie Debelle est enseignante. Elle a longtemps été justement dans les classes avec des étudiants. Elle vient de publier un livre qui s'appelle « Enseigner ». Enseigner comme dans « saigner ». Se saigner pour ses étudiants. Merci d'être avec nous, Madame Debelle.
Merci.
Suzanne Géchartrand est porte-parole du collectif Debout pour l'école. Merci d'être avec nous. Alain Marois est vice-président de la vie politique à la Fédération autonome de l'enseignement, ceux-là même là, qui organisent cette 9e semaine pour l'école publique et qui veulent que notre école publique, on l'aime, c'est votre slogan, Monsieur
fait, oui.
Marois, merci d'être là. Et Pierre Lavoie, on pensait à Pierre Lavoie tout de suite parce que Pierre a ce beau projet d'école avec ce Lab École. Pierre Lavoie, que vous connaissez bien, athlète, cofondateur du Grand Défi, bien sûr, et l'un des instigateurs du projet Lab École. Merci, Pierre, d'être là.
Plaisir.
Bon, tour de table, je vais vous poser la question à vous, je vais la poser aux auditeurs par le fait même. Quelle devrait être la priorité du prochain ministre de l'Éducation? Je vais commencer avec le vice-président de la FAE, parce que vous avez de grandes revendications. Vous voulez qu'on aime l'école publique. Est-ce que ça serait ça la priorité pour vous, redorer le blason de l'école publique?
Bien, c'est sûr qu'il faut redorer le blason de l'école publique, mais comment le faire? C'est en écoutant les profs, en écoutant les gens sur le terrain, ce qu'on ne fait pas depuis des années, depuis, entre autres, les États généraux qui ont amené la réforme de l'éducation. On n'a jamais écouté les gens sur le terrain, malgré beaucoup de poudre aux yeux du dernier ministre. On n'a pas plus écouté les profs. Alors, la priorité pour nous, c'est vraiment d'être entendus.
Oui. Suzanne Chartrand, vous êtes l'instigatrice du collectif Debout pour l'école, apparemment qui réunit 1000 personnes, c'est ça au moins? Enfin, expliquez-nous un peu ce que c'est que ce collectif.
Oui, qui réunit environ 1000, un peu plus de personnes de partout au Québec, de tous les âges, de 25 à 95 ans, pour prendre M. Guy Rocher, par exemple. Des gens qui ont été dans l'enseignement pour la plupart, une partie de leur vie. Moi, j'ai été 50 ans en éducation. J'ai commencé à enseigner au secondaire en 1967. Donc, j'ai connu l'éducation au Québec dans différentes étapes. Et après avoir pris ma retraite, je me suis dit non, l'école va tellement mal que je peux pas décider de faire autre chose que d'essayer de avec d'autres de faire en sorte que ça aille mieux. Mm-hmm. Alors on a fondé ce
collectif. Vous avez ça dans le sang un peu, Madame Chartrand.
Un peu.
On peut dire.
Et donc je salue cette idée de semaine de l'école publique parce qu'il faut la mettre en valeur, l'école publique. Vous avez parfaitement raison. Elle est décriée, des fois avec raison, souvent à tort et par ignorance. Il faut la défendre parce qu'elle est attaquée de toutes parts. Elle a été attaquée massivement dans les 12 dernières années. 1,5 milliard, c'est pas rien ça, qui a été coupé. Donc, c'est coupé où? C'est coupé dans les services directs aux enfants.
1,5 milliard.
1,499,88, là, comme vous voulez, mais c'est 1,5 milliard.
Cours des derniers?
Du gouvernement libéral des 12 dernières années.
En 4 ans?
Les années, si on compte de les 12 ans du gouvernement
libéral.
Parce
que là, et puis, juste pour que ça soit clair pour le monde,
puis,
on avait compris sur 4 ans.
Il faut aussi que cette école publique redevienne ce qu'on voulait qu'elle soit dans la commission parents et au début, c'est-à-dire une école de qualité, une école qui vise l'équité. Pas l'égalité, l'équité que tous les enfants, tous les jeunes aient droit à une éducation qui leur permette de se développer, et c'est-à-dire donc prendre des mesures, il y en a des tonnes, on y reviendra tout à l'heure.
L'équité par rapport à l'égalité, c'est-à-dire c'est pas tout le monde...
Tout le monde pareil. Non, ouais. C'est pas tout le monde pareil, parce que tout le monde n'arrive pas selon les besoins, mais selon la réalité. L'enfant qui arrive à 4 ans ou à 5 ans en maternelle, qui vient d'un milieu très scolarisé, où la lecture, où la parole a été très valorisée, ben il arrive avec un bagage linguistique et de socialisation, alors qu'un autre enfant arrive avec un autre bagage. Donc, pour que ce deuxième enfant-là puisse avoir les mêmes chances de se développer, il faut l'aider davantage.
Il y a peut-être d'autres besoins, effectivement. Je disais que vous avez ça dans le sang parce que vous êtes la fille du syndicaliste bien connu, feu Michel Chartrand, je tenais à le préciser pour...
Simone Monnet-Chartrand.
Et de Simone Monnet-Chartrand, tout à fait, j'allais le dire. on a avec nous Julie Debelle qui vient de publier ces jours-ci Enseigner comme dans Enseigner avec un A et non pas un E. Merci d'être avec nous. Julie, vous avez vous aussi enseigné pendant près de 30 ans au primaire, secondaire, collégial.
Oui.
Votre livre, c'est aussi un ensemble de frustrations que vous avez accumulées sur 30 ans, là, où vous dites, vous, finalement, puis vous venez du... dites-moi.
Ben c'est ça, c'est un travail d'observation.
Oui,
comme j'ai œuvré et au primaire et au secondaire et au collégial et du côté francophone et du côté anglophone, ben ce que je fais en fait, c'est un espèce de tour d'horizon, un vol de à quoi ressemble la classe finalement à ces niveaux-là. Je l'ai écrit évidemment en espérant que de futurs enseignants pourraient s'en servir pour mieux comprendre dans quoi ils s'embarquent. Parce que je pense qu'une des raisons pour laquelle les enseignants quittent après 5 ans, il y en a peut-être 2, mais une en particulier, je pense pas que la formation soit assez serrée. Je pense qu'il y a un manque de culture et de contenu. On fait beaucoup de pédagogie. Et alors que la pédagogie, en fait, ça s'apprend souvent.
Ouais.
Le métier s'apprend en faisant le métier.
Puis vous parlez des commissions scolaires aussi. Vous dites qu'il faut qu'elles soient repensées ou abolies parce que ce sont des monstres, je vous cite, des monstres qui gobent et gobent des milliers de sous pour meubler des bureaux qui font 4 fois la grandeur d'une salle de classe. Vous rappelez l'histoire du commissaire d'école qui a été payé plein salaire pendant une année ou deux alors qu'il n'était même plus commissaire.
C'est ça, exact.
Mais vous dites en même temps, les étudiants n'ont pas tort. Vous parliez entre autres des carrés rouges de 2012 quand il décrit le gaspillage financier en éducation. Vous dites, il y en a beaucoup. Fait que, quand je dis frustration, ça, c'est une des frustrations. Puis vous n'êtes pas la seule enseignante à dire, voyons donc, l'argent ne va pas où elle doit aller.
Oui,
Pierre Lavoie, on va revenir là-dessus. Pierre Labécole, projet-là va-t-il se poursuivre dans un gouvernement caquiste, Pierre?
Assurément, parce que c'est un projet, je pense, qui est mobilisant. On est sur le terrain avec les enseignants, avec le personnel. Donc, ce que j'aime, ce que j'ai découvert d'ailleurs dans Labécole, c'est que de se brancher avec le terrain, c'est nourrissant. Pour bien comprendre, premièrement, la réalité, et ensuite poser des bons gestes pour le futur, parce qu'on a la responsabilité quand même de refaire l'alphabet de l'architecture des écoles du Québec. Il y en aura 6 qui devront être des laboratoires.
Et mais ensuite... pour toi, l'environnement, c'est la priorité?
Ah oui, parce que... Non. Moi, je pense que la priorité du gouvernement, ce serait de nommer son ministre le plus fort en éducation. Pour moi, ce serait ça. Là. Donc, ton meilleur...
T'as-tu un nom à suggérer?
On ne connaît pas nous, on en connaît des personnalités, mais...
Il n'y a personne là qui ressort jusqu'à
pourquoi je dis ça, c'est parce que... Pour une fois, ça pourrait être un enseignant. Ça ferait changement aussi.
Oui, peut-être, mais ce qu'il faut, là, c'est qu'il soit assez fort pour défendre sa famille, pour défendre l'éducation. Et pour la défendre, il faut que tu la comprennes. Et pour la comprendre, il faut aller sur le terrain. Moi, hier, j'étais à Sept-Îles. J'ai visité 2 écoles anglophones, une secondaire, une primaire. Demain, je serai à Québec, dans une école primaire défavorisée. On va remettre des vélos, mais des équipes qui s'impliquent. Quand on va sur le terrain, Québec, c'est différent de la Côte-Nord, que du Saguenay, que Montréal.
Que Montréal, ben oui.
Il y a des réalités un peu partout, mais les meilleures personnes pour nous informer de ces différences, ce sont les enseignants. Moi, je suis d'accord avec M. Marois, là. Mm-hmm. C'est que maintenant, il faut se brancher. Avant de poser des gestes, parce que je pense que le gouvernement actuel n'a pas dit qu'il allait désengager en éducation, mais moi, je veux que l'éducation soit une priorité nationale numéro un, pas deux. Mm-hmm. La première, c'est la santé, on le sait. Mais moi, je sais que les problèmes de santé des Québécois, c'est un problème d'éducation. Donc, comment on corrige les problèmes dans les milieux défavorisés? Les syllabes écoles sont construits pour la plupart dans des milieux défavorisés côté 10 pour voir, est-ce qu'on, quand on améliore l'environnement d'un enseignant puis d'un élève, puis qu'on implique le quartier dans son école qui ne ferme plus à 3 heures, qui ferme à 11 heures maintenant, qui continue à faire son rôle d'éducation le soir pour le quartier, est-ce qu'on obtient finalement, on augmente le niveau éducatif de ce milieu? Donc, on va vérifier. Après, on sait qu'il y aura 200 écoles qui seront refaites dans les 15 prochaines années. Bien là, il faut d'abord faire
c'est un temps d'arrêt. C'est long, 15 ans, par exemple.
Non, c'est court. Ouais. C'est court parce que c'est pas facile d'amener des changements à l'éducation. C'est pas facile de poser les bons gestes parce que tout change. Les métiers actuellement, il y en a 50% qui n'existent plus dans 15 ans. Ouais. Les métiers que nos enfants apprennent sont différents. Est-ce qu'on doit aller vers un enfant qui apprend la généralité, soit pour être plus fonctionnel dans la société, une culture générale plus approfondie? C'est ces questions-là qu'on doit se poser. Mais la meilleure personne pour le savoir, c'est d'aller sur le terrain. Je vous dis, moi, je me nourris des enseignants, je me nourris des enfants aussi. Juste en terminant, au Lab École à Québec, on a fait venir des jeunes de 5e et 6e année pour commenter un peu les maquettes. Et vous savez,
les nouvelles maquettes des futures écoles.
Est-ce que les gens savent l'endroit, ce que l'enfant aime le plus quand on leur pose la question à l'école? Quel endroit que tu aimes le plus être? Ils nous répondent dehors.
Ben oui.
Non, mais c'est intéressant.
Et
quand on regarde l'extérieur, il est stérile. Parce qu'on a peur de tous les dangers. Vous voyez, les enfants même nous répondent leurs besoins simplement. Donc, c'est intéressant. Le travail, il faut vraiment se collecter maintenant sur le terrain, puis aller chercher les besoins, puis concevoir en fonction d'eux.
Mais ça, c'est intéressant. Toi, tu dis, écoutons les enseignants, mais écoutons les élèves, écoutons ceux qui sont les clients, entre guillemets, là, tu sais, les usagers.
On n'aime pas le terme client.
Je sais que vous ne l'aimez pas. Avez-vous vu, j'ai mis des gros guillemets.
Oui, oui, oui.
Non, mais c'est parce que...
Je veux que vos auditeurs les voient aussi.
C'est ça, je l'ai dit, là, entre guillemets, c'est ça.
Moi, j'aimerais qu'on défende les enfants.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, il y a les syndicats pour
le droit à l'éducation des enfants.
J'aimerais ça. Moi, je pense que quand le grand défi va se terminer, je lance un syndicat d'enfants. On va les défendre. Puis, quand on va vouloir enlever des buts de neige en école, là, ben non, on n'est pas d'accord pour les enfants.
Oui, mais ça, je vous pose la question, M. Marois, vos enseignants sont-ils prêts à vous suivre là-dedans? Vous représentez près de 40 000 enseignants, enseignantes du préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle, éducation aux adultes. Les jeunes le disent, là, ils veulent plus bouger. Puis en plus, ça, c'est secondé par des spécialistes. Effectivement, il faut qu'ils bougent plus quand les gars, entre autres, mais même les filles. Moi, j'ai des filles, puis c'est comme les gars. Là, ça veut bouger aussi, parce qu'après, ça bouge moins. Hein? Donc, oui, on veut plus d'activité physique. Tous les jeunes le veulent. Ils veulent sortir dehors, comme vient de dire Pierre Lavoie. Mais c'est pas toujours facile dans les milieux scolaires. Puis des fois, c'est les enseignants là, qui buguent là-dessus aussi. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps, que c'est compliqué. Faut gérer ça. Il y a bien de la gestion dans une école.
Bien, justement, les profs ont trop de gestion à faire. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit, les profs, quand on les a sondés? C'est quoi vos plus grands besoins? Là, il y a un de nos syndicats, vous le savez, qui a fait au niveau de la commission scolaire de Montréal, où un prof sur deux veut quitter la commission scolaire d'ici 5 ans. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ces profs-là, c'est d'abord, entre autres, là, c'est qu'on s'occupe des élèves en difficulté, qu'on leur donne des services. C'est sûr qu'on veut que les enfants puissent bouger, nos enfants qui ont des difficultés, on pense que c'est une bonne chose, mais c'est quoi la réalité de nos écoles présentement? C'est que souvent, on s'accapare des locales de spécialistes, des locaux de spécialistes plutôt, des bibliothèques et même de gymnases. C'est rendu que dans certaines écoles, à cause de la surpopulation, on n'a même plus de gymnase pour... donc, le prof d'éduc, qui peut bien s'arranger pour aller faire l'éducation physique quelquefois à l'extérieur, mais il a quand même besoin de son gymnase là, à l'occasion. Donc, le plus grand besoin des profs, là, c'est de revoir la composition des groupes. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Puis la population nous dit la même chose. Le sondage que la FAE a fait, là, on nous dit 89% de la population dit que ça prend plus de classes spécialisées. On a tout mis les enfants dans un melting pot dans des classes ordinaires, qu'on dit ordinaires, mais qui n'ont rien d'ordinaire. Quand on a 12, 14 élèves sur 25 là, qui sont en grande difficulté, qui ont des handicaps, qui ont des troubles, des TDAH, là, des troubles d'hyperactivité avec déficit de l'attention dans un même groupe, ça ne fonctionne plus. Puis les profs, ils n'ont pas de temps. Alors, la gestion, là, quand on tape sur la tête des profs pour dire « Ah, ils ont enlevé la récréation d'après-midi, là », mais peut-être si on mettait de l'argent pour avoir des activités parascolaires avec des gens qui vont faire bouger les enfants après l'école, puis que les profs puissent se concentrer sur l'enseignement. Et pourquoi ils enlèvent des récréations? Parce que ça devient une gestion abominable dans l'après-midi. Les enfants sont fatigués. Alors, on pourrait diminuer la tâche éducative des profs, donner ça à des spécialistes qui vont les faire bouger après les heures d'école, puis que les profs se concentrent sur l'enseignement.
Une heure de plus par jour à l'école, comme le propose la CAQ, vous en pensez quoi?
Mais ça va prendre de l'argent, ça va prendre des fonds. Puis il va falloir dégager les profs de tâches administratives, là, arrêter de leur faire surveiller des casiers puis des corridors, là, qu'ils puissent se concentrer. Parce que M. Lavoie a soulevé un autre bon point. La culture générale, là, puis Mme Chartrand va pouvoir en parler aussi, mais il n'y a personne qui remet en question les curriculums en ce moment. Et ça, c'est
mais moi,
aussi
j'allais
important.
Y venir, j'allais dire, c'est parce que là, vous me parlez d'une école où il faudrait revoir le programme, il faudrait revoir les cours. Puis moi, je le vois, là, j'en ai une fille au secondaire encore, puis je me dis, ma foi, il y a beaucoup de pertes de temps. Il y a beaucoup de pertes de temps.
Si tu dis... Moi, j'habite à côté d'une grosse polyvalente.
Ça finit de bonne heure, puis il y a beaucoup de pertes de temps.
Maintenant, ça s'appelle une école secondaire, ouais. Père Marquette, pour ne pas la nommer.
Ouais.
Et si je mettais un micro à 3 heures, parce qu'ils sortent à 3 heures, ils arrivent à 8 heures, ils sortent à 3 heures, puis après, qu'est-ce qu'ils s'en vont? Ils s'en vont jouer sur des jeux vidéo et d'autres choses. Je veux dire, ils ne vont pas beaucoup étudier et réfléchir. Hein? Alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Et je suis sûre que j'aurais des grands yeux puis des bouches ouvertes.
Vous allez avoir la réponse à rien.
Ben, quand je dis les grands yeux ouverts puis la bouche ouverte, ça veut dire que j'arrive pas à trouver une réponse.
C'est ça.
Alors, c'est ça. Le temps d'enseignement est d'autant plus réduit que les classes est de plus en plus difficile à gérer, même par les profs de grande expérience et de grande passion, parce qu'il y a beaucoup trop d'élèves par classe et beaucoup trop d'élèves. Et dans les classes dites régulières, qui ne sont plus du tout régulières parce que tous les élèves qui ont pu sont allés dans des parcours plus ou moins élitistes, plus ou moins sélectifs, très sélectifs. Alors, c'est des élèves, finalement, on retrouve les faibles, tous ceux qui ont toutes sortes de difficultés et les ratios sont systématiquement trop élevés et sont systématiquement même dépassés. Et quand on parle de ça, les ratios, Monsieur Roberge, qui a été enseignant au primaire, qui est de la CAQ, a dit l'autre jour publiquement à la rencontre Le Devoir de débattre sur l'éducation, que les études scientifiques prouvaient que le nombre d'élèves par classe n'avait pas d'incidence sur la réussite. C'est totalement faux. J'ai lu 6 études différentes. On les a étudiées. On va publier là-dessus bientôt. Au contraire, ça dépend ce qu'on appelle la réussite. Si c'est juste le nombre de diplômés, ben baissez les exigences puis vous avez tous les diplômés, les élèves.
C'est fait.
Si c'est sur la qualité de l'éducation et le développement de la culture des enfants de notre pays, c'est autre chose. Et il n'y a pas un enseignant d'expérience qui vous dira pas que passer de 24 à 28 au primaire ou de 29 à 34 ou 32 au secondaire, c'est une différence majeure.
Non,
donc, le temps d'enseignement disparaît au profit d'une gestion.
On va s'arrêter ici. On va bien sûr entendre Julie, qui a été enseignante pendant très longtemps également. Mes invités restent là, Pierre Lavoie et tout ça. Bon, vous restez là, bougez pas. On va voir ce que les auditeurs en pensent parce que la dernière intervention de Mme Chartrand nous amenait bien sur cette fameuse question que je vous pose ce matin parce que là, on veut célébrer l'école publique. On veut rappeler aux gens que l'école publique, c'est une institution qu'il faut qu'on l'aime. Donc, quand on aime quelqu'un, on en prend soin. Il faudrait qu'on s'en occupe un peu plus. Or, beaucoup de Québécois, puis vous me direz où vous en êtes, vous, beaucoup de Québécois pensent que justement, l'école publique, c'est pour tous ceux qui ont des enfants en problème, puis les autres, ben, si vous voulez que vos enfants réussissent, c'est aussi bien de le mettre à l'école privée. Et il y a beaucoup de Québécois qui se serrent la ceinture, qui se privent, qui font des sacrifices pour permettre à leurs enfants d'avoir accès à cette éducation qu'ils considèrent étant meilleure au privé. Alors, vous me direz où vous êtes, vous, 514-790-9850. Et quelle est la priorité du prochain ministre de l'Éducation d'après vous? 1-866-790-9850. On se demande ce matin quelle place reste-t-il pour l'école publique. C'est la semaine pour l'école publique et on nous encourage à démontrer aux enseignants puis à l'école en général, l'école publique, qu'on l'aime. C'est en tout cas le souhait de la Fédération autonome de l'enseignement qui regroupe des dizaines de milliers d'enseignants au Québec. Évidemment, bon, les parents, des fois, sont pas satisfaits autant que la FAL souhaiterait de l'école publique. On a Mélanie qui est avec nous. D'ailleurs, Mélanie, vous avez retiré votre enfant, c'est ça, un enfant de l'école publique parce que vous estimiez qu'il n'y avait pas assez de services?
Exactement. En fait, moi, j'ai un beau garçon qui a un syndrome de Gilles de la Tourette. Puis, tu sais, moi, je veux juste dire d'entrée de jeu là, que je vis pas dans le fond de ma campagne. Tu sais, on a décidé de faire l'école à la maison, puis je suis une infirmière. Là, je fais partie du monde qui aurait eu envie que mes enfants aillent à l'école. Tu sais, on a pris cette décision-là vraiment par souci d'un garçon qui était en train de faire une dépression parce que on recevait aucun soutien, rien du tout de l'école.
Ouais, ouais. Donc là, vous l'avez mis ailleurs, vous avez... C'est ça? Expliquez-nous un peu.
En fait, dans le fond, il a fait sa maternelle, il a fait sa première année, puis début de deuxième année, c'était vraiment difficile. Mmh. Une classe, je me rappelle pas, mais je crois qu'ils avaient comme 17 ou 18 élèves dans la classe. Puis, je m'excuse, je porte cette cause-là, puis ça me rend émotive.
Tu sais,
c'est vraiment... j'ai comme le cœur qui débat de... Alexis, on était rendu au mois d'octobre, puis le psychologue, il nous a dit, là, faut vraiment que vous preniez une décision. Il est en train de faire une dépression, votre garçon. Là,
oh,
là,
mon Dieu. Plus.
Oui, vraiment, il était malheureux, puis et c'est un enfant qui a besoin de support. Il fonctionnait, il a une douance, Alexis, fait que c'est un petit garçon très intelligent, mais qui vit aussi avec un Tourette, donc qui a de l'impulsivité. Puis comme il comprenait la matière rapidement et facilement, ben il s'ennuyait. Qu'est-ce que ça fait un petit garçon qui s'ennuie? Ça a besoin de déplacer d'énergie. Fait qu'on l'a mis dans le fond de la classe avec deux bibliothèques de chaque côté de lui. Puis quand il avait terminé ses affaires, ben il fallait qu'il aille lire ses livres dans le fond de la classe. Là, il fallait qu'il aille faire. Fait qu'il s'occupait comme 5-6 heures par jour par lui-même. Ça fonctionnait plus, là. Mm. Et puis, on avait un Alexis qui nous disait « Je comprends pas que vous m'aimiez et que vous me faites vivre ça, là. »
Des fois, pour beaucoup de jeunes, l'école est un supplice au Québec. C'est pas supposé être comme ça. C'est un supplice.
Mais je suis d'accord. Moi, là, j'aimerais ça, amener mes enfants à une petite école, puis qu'ils soient heureux, qu'ils s'émancipent avec des enseignants, heureux de le faire. Moi, là, j'ai rencontré des enseignants dans ma petite école qui sont des amis aujourd'hui, que j'adore comme humains à l'extérieur de l'école, mais qui sont méconnaissables entre quatre murs, là. Ils sont au-dessus d'eux-mêmes, ils n'y arrivent plus. Et un enseignant, un des profs de maternelle qui est devenu un de nos amis, nous a dit à la deuxième semaine de la rentrée scolaire, je suis épuisée. Ça n'a pas de sens. Et fait qu'ils veulent, ils sont dévoués, c'est des passionnés. Moi, je suis infirmière, je pense que c'est des métiers de cœur.
Ouais.
Ils veulent, ils étudient pour prendre soin, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont seuls dans leur classe avec, je veux dire, il y avait 22 élèves, dont un TSA et un sourd dans sa classe de maternelle. Ça n'a aucun sens.
Ouais, complètement. Merci, Mélanie. Merci beaucoup. Juste avant de vous laisser aller, êtes-vous contente maintenant? Est-ce que votre fils est heureux dans sa nouvelle école?
Ah, vraiment. Oui, vraiment. Cela dit, c'est moi qui se tape les défis, on va se le dire, mais tu sais, je l'adore. Je veux dire, j'ai pas envie de vivre autre chose que ça.
Ça vous coûte combien? Ça vous coûte combien par année?
Ben, dans la réalité, je veux dire, je suis une infirmière qui travaillait à temps plein. Je travaille 2 nuits par semaine maintenant. J'ai pas fait le calcul pour pas être découragée, mais clairement qu'on a une auto et on va pas en voyage, là.
Ouais, merci. Fait que vous faites l'école à la maison, là, c'est ça, là.
Exactement. Ouais, puis j'ai mon deuxième qui a 4 ans, puis finalement, ben, on va continuer comme ça. Je veux dire, on le voit, le réseau. Moi, je suis attristée, puis ça va être ça, tu sais.
Ouais. Merci beaucoup. Il y a de plus en plus de parents qui choisissent l'école à la maison. Là. C'est un sujet connexe. Là. On ne parlera pas de ça ce matin forcément, mais effectivement, c'est le choix que font. Fait que, on parlait de combien qu'il y a de systèmes. Il y a public-privé. Mme Chartrand me disait non, il y en a un troisième, c'est-à-dire c'est tous ces programmes dans le public qui deviennent, hein, vous le disiez, Mme Chartrand, qui sont des programmes sélectifs, projets, études,
sport-études, danse-études.
Il y en a plein là, maintenant. Et il y a aussi l'autre, le quatrième qu'on avait oublié, c'est ceux qui décident de garder leurs enfants chez eux puis dire « je vais être le prof de mon enfant, ça va être bien mieux ». Alors, on va s'arrêter ici. Le temps passe tellement vite, il faudrait faire une spéciale de 2 heures sur l'éducation. C'est ça, là. C'est ça, la priorité, là. On met le doigt dessus, c'est bon. On vient tout de suite après avec vos commentaires. Nos lignes sont pleines. On vous donne la parole. On a Alexandre qui travaille dans une école. Vous êtes technicien, Alexandre. Situez-nous un petit peu.
Oui, en fait, je suis technicien en éducation spécialisée.
OK.
Donc, j'ai travaillé les 5 dernières années dans des écoles primaires. Et l'année dernière, on a eu la chance d'avoir là la bourse, en fait, la mesure là de à l'école on bouge au cube du député Pierre Lavoie pour mettre en place de l'activité physique à l'école. Et c'est moi qui ai eu la chance carrément d'être le responsable école pour mettre cette mesure-là. Et après un an, ce que j'ai pu constater vraiment, là, vous parlez tantôt, c'est quoi les objectifs du prochain ministre de l'Éducation, mais je trouve que c'est le manque de temps. Parce que les enseignants, présentement, sont déjà surchargés, que ce soit par la matière qu'ils ont à donner, mais également, là, ils ont des nouvelles matières à donner comme éducation à la sexualité et d'autres choses. Et là, en plus, on vient leur dire, écoutez, là, il faut rajouter du temps d'activité physique. La plupart des enseignants, la très grande majorité, sont très d'accord avec ça, puis ils approuvent cette mesure-là. Mais quand ils se retrouvent devant comment je vais faire ça, combien de temps je vais accorder à ça, ben c'est là qu'il devient la difficulté.
Parce qu'on on les encadre pas, sans doute. C'est peut-être ça aussi le manque, hein?
Mais en fait, on a plein de ressources pour les supporter là-dedans, mais c'est juste que année après année, il y a plein de nouvelles choses, plein de bonnes choses, comme je disais tantôt, éducation à la sexualité, on parle de faire bouger les élèves une heure par jour, c'est plein de bonnes choses, puis tous les profs sont d'accord avec ça, mais ils ont tout ce qu'il y avait à faire avant aussi, puis ils n'ont pas plus de temps, parce qu'on parlait tantôt du ratio enseignant-élève. Si on veut que les enseignants aient le temps avec chacun des élèves, ben il faut diminuer les ratios, c'est ça sûr. C'est sûr et certain.
Je pense que là-dessus, il y a un consensus, je pense, ce matin, vous tous, là, vous êtes d'accord, il faut baisser le nombre d'élèves par classe.
C'est clair, comme ça, les enseignants vont avoir plus de temps, parce qu'on a de plus en plus d'élèves en difficulté, plus en plus de choses à donner, plus en plus de temps à laisser aux enfants pour l'activité physique, la gestion des émotions. Mais les enseignants, on a le même temps qu'avant, donc il y a quelque chose qui fonctionne pas.
Merci beaucoup, Alexandre. Alain Marois, vice-président à la Fédération autonome de l'enseignement.
Ben, c'est un excellent point. On n'arrête pas de grossir tout le temps de l'intérieur, mais sans donner plus de temps aux enseignants. L'exemple des apprentissages en éducation à la sexualité est un bon exemple. Là. On vient de remettre ça sur le dos des enseignants. On dit, faites ça dans n'importe quelle matière que vous voulez. N'importe qui peut le faire. Alors, tout le monde est responsable. Personne n'est en même temps. Ça n'a aucun sens. Et tout le temps, on en ajoute sur les épaules des enseignants. Et c'est une demande principale des enseignants et de la population aussi. Là, dans notre sondage qu'on dévoilait là, ce matin, entre autres, 87 % de la population estime qu'on devrait libérer les profs des tâches administratives. C'est pas rien. C'est pas juste les profs qui le disent. Les gens, là, les parents, la population en général le constate qu'on en demande trop aux profs présentement, puis c'est sûr qu'on n'assure pas l'essentiel pendant ce temps-là. L'exemple de Mélanie est un bon exemple. Quand tu as un élève là, que tu ne peux pas aider, qui est en grande difficulté, t'es pas un sans-cœur. Tu le vois que dans ta classe, tu en as plusieurs élèves. Mais comment, quand tu rentres chez vous, là, moi, ma conjointe est enseignante, là, puis elle rentre à la maison, là, puis elle dit, ben un tel, j'ai pas pu l'aider aujourd'hui, là, puis elle est complètement défaite avec ça. Mais ça, c'est le lot quotidien de plein d'enseignantes et d'enseignants.
Pierre Lavoie.
Ben, c'est un bon point, parce que la mesure de l'âge, justement, c'est que l'école s'engage à faire bouger les jeunes une heure par jour, tous les jours, toute l'année. Ce qui était prioritaire pour moi, c'est donner du budget pour être capable de le faire. Je pense que les écoles ont un bon budget, premièrement. Deuxièmement, ça prenait une libération d'un enseignant pour accompagner tout le corps enseignant dans cette tâche qui naît s'ajouter.
Parce que là, il faut l'enlever, cette heure-là.
Au début, parce qu'elle n'était pas obligatoire. Moi, je me suis obstiné avec le ministère pour dire non, vous ne comprenez pas pour la pérennité.
Il faut que ça soit obligatoire.
Arrêtez de mettre des mesures dans les écoles, puis pas donner de libération pour être en mesure de l'appliquer et de budget, souvent, parce que la société est toujours en train de changer. Elle sera différente dans 5 ans puis dans 10 ans.
C'est ça.
On devra probablement ajouter quelque chose de nouveau dans les... Où on le fait? Les parents n'ont plein
François
les bras,
Legault
le dit, travail,
le deux jours, le Québec, l'école. Dans 4 ans, ce ne sera plus pareil.
Donc, moi, plus tu ajoutes de mesures, libère ton enseignant qui puisse bien faire sa tâche. Ensuite, rajoute des gens autour. Si tu as décidé de faire les saines études de vie, fais des ajouts pour qu'on soit capable, comme l'école est prête à le faire. Là. L'école est prête, après 3 heures, la garder ouverte pour la population. Je pense qu'on est prêt à tout. Mais il faudra quand même qui va payer la facture en bout de ligne. Donc, c'est pour ça que je me dis... Comme gouvernement,
si on prend tout, Pierre, là-dessus, je suis pas sûre. Moi, j'ai souvent des discussions là-dessus, justement, avec des. Puis les gens le disent. C'est on gère l'école aussi, et peut-être, je sais pas, il y a des endroits que ça doit être pire qu'ailleurs, mais c'est beaucoup une gestion d'autobus scolaire.
Ouais,
quand on dit, on peut pas laisser l'école ouverte après telle heure, l'autobus scolaire, il passe à 3h15. Fait que c'est sûr, il faut qu'il soit dehors dans le cours à 2h30. Il y a des écoles, on parle de 3h, mais
pour le primaire, c'est les horaires d'autobus.
Ben, c'est pour ça que le primaire.
Mais ça a l'air que non.
C'est pour ça que pour le primaire, il faut faire des écoles de proximité, non? Faut les mettre à côté. En France, il n'y a pas de bus scolaire, ça n'existe pas. Non. Les gens se déplacent à pied. Transport actif, ça fait partie de leur vie.
Les distances sont moins longues aussi.
Ben oui, puis les pays scandinaves, c'est pareil. Donc, nous, on a mis un système en place. On met une école, on veut la mettre à 800 élèves. Déjà, c'est un problème. Et là, ton cercle est rendu très, très, très grand. Le 80% qui se déplace en autobus. L'autobus, tu dois gérer l'horaire. C'est compliqué, là.
On a Robert qui est enseignant. Bonjour, Robert.
Oui, bonjour, Mme Maréchal.
On vous écoute.
Vous n'avez pas assez long de...
Je sais. On fait notre effort. C'est pas grave. On y reviendra. Mais vous vouliez dire quoi, Robert, là-dessus?
Ben, écoutez, moi, ça fait depuis 2010 que je suis enseignant dans la même commission scolaire. Donc, depuis 2010, je suis encore enseignant précaire. Mm-hmm. Après tout ce temps-là. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque année, je ne suis jamais dans la même école. Ou pratiquement jamais dans la même école. Je dois recommencer des nouveaux cours à chaque année. J'ai dû aller au primaire. J'ai dû enseigner les sciences, qui est ma formation. Mais en même temps, j'ai dû enseigner l'anglais parce que des fois, on me donnait pas de poste en sciences et on m'a dit « Hey, t'es super bon en anglais, alors va enseigner en anglais. »
C'est sûr. On sait que c'est de même.
C'est comme ça. Puis, en plus, quand on fait nos tâches, là, en début d'année, avec la direction... j'ai pas un contrat à 100%, là. Donc, moi, mon salaire, là, il est à 77% cette année du salaire que je devrais avoir si j'avais un temps plein. En faisant ma tâche, on calcule les minutes que j'ai à enseigner, les minutes que j'ai à être en réunion, les minutes que j'ai à faire de la paperasse. Connaissez-vous d'autres corps de métier qui, pour qui on dit, ah, ben, toi, tu vas scier ta planche pendant 27 minutes, mais après ça, va faire autre chose.
Je sais.
En plus de ça, quand on fait notre tâche, on arrive à, oh, t'as tant de minutes pour faire toutes tes activités puis être sur un comité, mais pour faire de la récupération sur l'heure du midi, ah, dommage, t'es à 0 minute. Même si t'as 5 groupes, 120 élèves, t'as 0 minute de récupération de possible. C'est pas du service à l'élève, malheureusement. C'est ce que je trouve très déplorable. Autre chose...
Et vous continuez pareil, Robert?
Ben, je continue quand même parce que on est là pour les jeunes, puis... Ma conjointe est éducatrice spécialisée, donc comme l'intervenant juste avant moi. Elle, ça fait encore plus longtemps que moi qu'elle est dans le milieu scolaire. Puis d'année en année, là, elle avait des contrats de 35 heures. Puis savez-vous quoi? Il n'en existe pratiquement plus des contrats de 35 heures. C'est rendu à 31 heures.
Mais pourquoi ça? 2.5. Pourquoi?
Parce que...
C'est les compressions budgétaires dont parlait Mme Chartrand tout à l'heure?
Oui, exactement. Puis pour avoir une permanence, c'est 26.15 heures. C'est drôle, il y a plein de directions qui font « Ah, faisons 4 postes à 25 heures seulement.
»
Impossible d'être stable à l'école. Comment est-ce que vous voulez qu'on puisse, d'année en année, reproduire ce qu'on a commencé à travailler, grossir, améliorer notre programme, quand on est toujours après changer de personnel?
Complètement, complètement. Puis les remplaçants, si vous saviez le nombre de gens, là, je peux pas lire tous les courriels tellement j'en reçois en ce moment même que vous nous racontez ça, Robert, les gens qui disent « Il y a trop de remplacements, c'est jamais le même prof de maths. »
Exact.
Tu sais, j'allais dire, puis là, je cherche une matière qui est moins dérangeante. Là. Prenons art, puis même là, tu sais, dans la vie, ta créativité, t'as besoin de ton cours d'art. J'allais dire, éduque, ben non, on vient de dire, là, ça fait une demi-heure qu'on dit qu'il faut bouger. Donc, tous les cours sont importants, tu sais, mais il y a des remplacements dans tous les cours. C'est comment créer cette espèce d'habitude, ce lien particulier que t'as avec l'enseignant? C'est vraiment, Robert, bravo, bravo de cet engagement qu'on sent bien chez vous, là.
Ben, je le suis, puis malheureusement, j'ai un enfant de... Ben, j'en ai 3, là, mais...
Heureusement, j'en ai... Pas malheureusement, Robert, heureusement.
Non, mais oui, mais j'ai 3 enfants, mais mon constat, c'est triste, je travaille dans l'école publique et je souhaite envoyer ma plus jeune en école privée.
Ah,
c'est ça, mon constat.
Même si je suis
intervenant en école publique.
Wow. Là-dessus, mes invités...
Je voudrais dire que 42 % du corps professoral est à statut précaire.
42?
Trouvez-vous d'autres corps de métier comme ça ou de profession? Non, ça n'existe pas. J'ai été professeure à l'Université Laval et de mes étudiantes qui ont diplômé après 4 ans de baccalauréat, après 9 ans ou 8 ans ou 10 ans, certaines sont encore précaires. C'est-à-dire exactement ce que dit monsieur. Elles apprennent en allant au bassin au mois d'août qu'est-ce qu'elles vont enseigner, où elles vont enseigner, à quel niveau. Et évidemment, comme c'est la fin, donc tous les débutants comme les précaires ont la fin du baril, si je peux dire. C'est-à-dire que finalement, ils prennent ce qui n'a pas été pris.
Ouais.
Et donc, ils se retrouvent souvent avec 2 disciplines alors qu'ils sont formés dans une discipline scolaire.
Hein?
Et donc, c'est la qualité même de l'éducation. Et je veux dire juste une autre chose, monsieur. Marois a parlé beaucoup des enseignants et des enseignantes, mais il faut parler des professionnels. Elles vont dans plusieurs écoles, elles font de la paperasse un nombre d'heures incalculable dans la semaine, alors que leur travail, comme orthopédagogue, comme orthophoniste, comme psychoéducateur, c'est justement d'être à côté de l'enfant et de l'aider à se développer.
On a sabré beaucoup dans ces postes-là,
absolument.
Justement. On va s'arrêter ici, on revient après la pause. On a Mélanie avec nous. Bonjour Mélanie. Quelle est la priorité du prochain ministre de l'Éducation, vous pensez?
Ben, en fait, il faut que ce soit l'éducation, là, mais c'est sa priorité.
Ouais.
Parce que les enfants, c'est au cœur de tout ça. Moi, j'ai deux enfants. J'ai toujours cru au réseau public, mais malheureusement, j'ai été désillusionnée en envoyant mes enfants dans le réseau public. Ouais. Mon fils a des particularités, donc un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, avec un trouble de l'opposition. En fait, c'était pas son environnement. Le arrivé au secondaire, ça a été catastrophique. J'ai fait le choix de l'envoyer à l'école privée et j'ai été absolument pas déçue. Au contraire, il est maintenant secondaire 5, ils ont des programmes, en tout cas, à l'école où il va, il y a un programme qui est spécialisé, entre autres, en sport. Donc, ça lui permet d'avoir plus d'heures où il peut bouger pendant la journée, où c'était ses besoins à lui, pas toujours être assis en classe.
Et ça, c'est au public, hein, vous avez dit.
Non, là, je suis rendue au
privé. Ah, là, vous êtes au privé.
On a quitté le public pour cette raison-là. Et par la suite, ma fille a suivi. Et on a fait le choix quand même de l'envoyer au privé parce qu'on était 100% satisfait de ce qu'il s'offrait là-bas. Il y a une chose qu'il faut pas oublier. Et là, je vais peut-être provoquer certaines personnes. Quand vous parlez tantôt au niveau de la stabilité du personnel enseignant, là, malheureusement, il y a une réalité syndicale dans tout ça. C'est ce qui fait que c'est désolant, des fois, de voir que certains professeurs n'arrivent pas à se trouver des postes et ils ont une volonté incroyable de s'initier là-dedans puis de rentrer dans le système puis qui arrivent avec toute la volonté du monde, mais malheureusement, ils sont sur des listes que ça finit plus de rappel.
Merci, Mélanie.
Je vous dirais, couper court en disant ça, parce qu'il faut savoir tous les facteurs autour de cette question-là. D'abord, le taux d'absentéisme, là, ben, c'est dû à l'alourdissement de la tâche. Alors, quand tu as plein de gens qui tombent malades, c'est clair qu'on a des remplacements à répétition. Tu te ramasses avec des gens qui n'ont pas nécessairement la formation comme remplaçant. Là, c'est un feu roulant. Par rapport à la stabilité, là, moi, j'ai été président de l'Alliance des professeurs de Montréal. J'ai négocié là, une entente locale où on a convenu avec la commission scolaire de beaucoup d'éléments en lien avec la stabilité pour faciliter qu'il y ait une meilleure stabilité. Mais qu'est-ce qui arrive? On a parlé avec les coupures. Là. Il y a eu un exemple dans l'appel précédent là, où on donne des tâches à des profs précaires. Là. On leur donne juste la tâche minimale qu'on puisse les engager, mais pas assez pour qu'ils deviennent permanents parce qu'on veut sauver de l'argent. Alors ça, c'est des réalités aussi. La précarité, elle est aussi...
Et là, vous me disiez,
Forcée, cette précarité.
Vous voulez qu'on augmente le salaire des profs?
Non, là, j'étais sur la précarité. Je veux qu'on diminue la précarité.
Oui, mais au-delà de ça, tout à l'heure, on disait aussi pendant la pause, vous m'avez dit qu'il faut augmenter le salaire des profs.
Également aussi, parce que, écoutez, là, à profession, là, avec le même niveau d'études, là, ça n'a aucun sens qu'on rentre dans la profession avec un salaire de 42 000. Là,
il faut que ce soit un métier attrayant.
Pierre Lavoie.
Il faut que ce soit un métier attrayant.
Ça passe par là, redorer le blason de l'école publique pour vous?
Moi, j'étais déçu quand les élections ont été déclenchées. Là. Je descendais vers ma région, le Saguenay. On était le vendredi ou jeudi, je ne me rappelle plus. Là. Puis les Vox Pop ici, au FM 98, je les ai écoutés. Ensuite, c'était Radio-Canada. J'ai fait les deux chaînes. Là. Et quelle devrait être la priorité de nos partis politiques? Ouais. C'était le premier qui a répondu, c'est santé. Le deuxième, c'était santé. Le troisième a dit santé. Le quatrième a dit santé. Ouais. Le cinquième a dit santé. Le septième a dit santé. J'ai changé de poste. Alors, j'ai fini par arriver au dixième qui a enfin dit l'éducation. Donc, le problème fondamental, il est là. Ouais. Donc, la priorité des Québécois, c'est pas l'éducation.
Et mais ça, quand tu dis ça, c'est nous, là.
Ben oui, parce que...
Après, on peut bien jeter la pierre à nos gouvernements,
mais
c'est
à nous. Oui, les familles, quand on est concerné, on a des enfants à l'école, là, on est vraiment préoccupés, mais on n'est pas majoritaire.
Oui, mais c'est sûr que l'école, c'est aussi le reflet d'un... Merci. L'école est un reflet d'un problème sociétal. C'est carrément le reflet. Alors moi, par exemple, j'aurais une demande à faire aux parents quand on parle justement de troubles d'apprentissage et d'hyperactivité. Ce serait peut-être bien que les enfants soient débranchés.
Ouais.
OK?
C'est
qu'on
genre,
les débranche, pas
enfants,
juste les profs. Ben, qu'on les débranche. Ouais. Et quand on parle de bouger, ce serait bien aussi que ça bouge à la maison. Parce que je pense que le problème, c'est qu'on a remis entre les mains de l'école la responsabilité total de fabriquer notre société, alors que c'est un tout. Ouais. On est tous responsables.
Il y a quelqu'un qui m'écrit, Robert m'écrit, tâche pour l'avenir, les priorités, prioriser l'éducation comme gouvernement, c'est clair. Donner des budgets nécessaires actuellement, les enseignants déboursent de leur poche. On l'a vu dernièrement, un exemple là, de prof qui disait, moi j'amène des Kleenex, j'amène même les petits collants, les crayons. Bon, il manque tellement de choses.
Je me bats quotidiennement avec ma conjointe qu'elle arrête de faire ça. Je trouve que c'est un non-sens parce qu'il faut que ça s'arrête un jour, que les profs arrêtent de mettre de l'argent pour que le gouvernement fasse sa job.
Robert dit soutenir les enseignants à encadrer les élèves qui ont des troubles de comportement ou d'autres problèmes poursuivre, par exemple. Il a arrêté aussi de déresponsabiliser les parents en ne leur faisant pas confiance. C'est ce que Julie vient de nous dire. Parce que l'éducation n'appartient pas seulement à l'école, c'est une responsabilité partagée avec tout le monde et beaucoup les parents et la société en général. Merci beaucoup, Mme Chartrand. Merci.
Je vous en prie.
Oui,
merci.
Morgan, on leur dit, c'est tout? Mais on va revenir.
On en parle encore pendant des heures.
C'est sûr, il y a tellement de choses à faire. Mais regardez, on part ça. On va voir qui va être le prochain ministre de l'Éducation. On souhaite que ça soit effectivement, comme vous disiez, M. Marois,
un enseignant.
Le meilleur possible. Un enseignant. Bon, on a eu des médecins à la santé, des enseignants à l'éducation. Peut-être. On peut
ça
les essayer.
Faire une
ça pourrait être Pierre Lavoie.
Merci. Oh, Pierre, je vote pour lui, moi.